Le premier à qui je vais prêcher ça, c'est à moi. Hein. Et vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi. Je voudrais m'arrêter avec vous sur quelque chose que l'apôtre Paul a dû apprendre. Quelque chose que Dieu lui a appris dès le départ de sa marche avec lui. Et je me dis que si l'apôtre Paul a dû l'apprendre, il n'y a pas de raison que nous, on ne l'apprenne pas non plus. Et je suis convaincu que, quelque part, les uns et les autres, dans ce qu'on va voir, on va s'y retrouver. C'est pour ça que je dis, le premier à qui je prêche, c'est à moi. On passe tous par des situations, des circonstances, des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on ne maîtrise pas. Voyez, et forcément, parce qu'on est humain, on aime le Seigneur, mais on est aussi humain. Et des fois, on est là, il y a des grands points d'interrogation. Et c'est un petit peu de tout ça dont j'aimerais parler ce soir. Regardez avec moi, dans le livre des Actes, au chapitre 9. Actes, chapitre 9, on est au début de la conversion de Saul de Tarse, qui allait devenir le grand apôtre Paul. Donc vous rappelez que Dieu va envoyer un homme, Ananias. La seule fois où il est question de lui dans la Bible, vous l'avez là, mais je me dis, il a été un instrument, hein. Instrument de Dieu, cet homme. Et puis il est dit, donc il y va. Vous rappelez qu'au début, il ne voulait pas trop y aller. Je le comprends. Et puis il va y aller, il rentre dans la maison, et puis il va prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et au verset 18, il est dit, acte 9, verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux, donc des yeux de Saul de Tarse, comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta encore quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Amen. Voilà. Alors c'est vrai que quand on pense à l'apôtre Paul, bien entendu que tout de suite la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est tout ce que Dieu a accompli au travers de lui. Il y a un verset, je vous le cite de mémoire, c'est acte 19, verset 11. Il est dit que Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Alors c'est marrant parce que des miracles extraordinaires, un miracle en principe c'est extraordinaire. Enfin bon, il y a une insistance là, vous voyez. Voyez. Et donc c'est vrai que quand on pense à l'apôtre Paul, on a tendance à voir ce côté-là, vous voyez, miraculeux, surnaturel, Dieu qui s'est servi de lui, etc., etc. Mais vous avez ici, dans ce texte, une expérience que l'apôtre Paul a fait au tout début de sa conversion, mais qui a été très importante pour toute la suite de son ministère. Hein. C'est l'expérience que je vais appeler, vous allez m'entendre le dire souvent ce soir, l'expérience de la corbeille. Que vous avez, on a lu ici, au verset 25. Donc, si je résume un petit peu, l'apôtre Paul se convertit, enfin, Saul de Tarse se convertit, il tergiverse pas, il va prêcher de suite le nom de Jésus, les gens comprennent pas, ils sont stupéfaits, il est venu pour persécuter les chrétiens et maintenant il annonce le nom de Jésus, c'est surprenant. Et puis verset 23, donc à partir de là, les répercussions arrivent, au bout d'un certain temps, on veut le tuer. Voilà. Le complot, comment on n'en sait rien, parvient à ses oreilles, et là la Bible nous dit au verset 25, pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Alors, nous, on peut lire ça vite, passer très vite là-dessus, mais c'est très important ce qu'il vit là. D'ailleurs, ça a dû le marquer parce que quand il écrit aux Corinthiens, il parle de cet épisode. Regardez, on va l'afficher, 2 Corinthiens 11. Donc, il écrit à des chrétiens qui n'étaient pas là à ce moment-là, mais il dit « À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. » Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai de leurs mains. Vous voyez, donc, il parle de cette expérience-là. On sent que ça l'a marqué, vous voyez. Mais ici, je reviens à acte 9, on est quand même là dans un contexte bien particulier. On est au tout début de sa conversion. Il fait ses premiers pas, vous voyez. Bon, vous allez me dire, il va commencer comme un avion puisqu'il de suite, il va prêcher, vous voyez. Mais on est quand même au tout début. Et là, par ce qu'il va vivre, et notamment cet épisode de la corbeille, Dieu va lui apprendre quelque chose d'important. Il faut dire que Saul de Tarse, c'était quand même, vous le savez, je ne vous apprends rien, un homme de caractère. Quand vous regardez qui il était, c'était pas le gars qui se laissait marcher dessus, qui se laissait marcher sur les pieds. Vous savez que c'était un érudit, vous savez qu'il avait un art oratoire assez important, un homme qui avait été élevé au pied de Gamaliel, un homme qui avec un caractère bien trempé, qui avait l'habitude de diriger et pas de se laisser diriger. Vous voyez, donc c'était un petit peu tout ça, Saul de Tarse. Jusque-là, c'était lui qui régentait sa vie. Mais à partir de ce jour-là, dès le départ, Dieu va lui apprendre quelque chose. Dieu va lui apprendre à ne plus dépendre de lui, mais à dépendre du Seigneur. Voyez, jusque-là, sa vie dépendait de lui, c'était lui qui régentait les choses, c'était lui qui conduisait sa vie, mais à partir de cet épisode-là, de ce qui se passe à cet endroit-là, Dieu veut lui apprendre que quelque part maintenant, c'est plus comme ça qu'il va devoir marcher. Voyez, d'ailleurs, cet épisode de la corbeille est très intéressant parce qu'on voit que quelque part, à ce moment-là, il ne dépendait plus de ses propres mains, mais il dépendait de la main des autres. Parce que, heureusement qu'ils ne l'ont pas lâché, heureusement que quelque part, ils ont bien fait le job, parce que sinon, il aurait terminé en bas, écrasé comme une crêpe. Voyez, mais, quelque part, si vous notez bien, ça avait déjà commencé, même avant ça. Parce que, quand il se convertit, vous rappelez, il est sur le chemin de Damas, tout d'un coup, une lumière apparaît, il tombe, alors on ne sait pas si c'est du cheval ou de la mule, vous voyez, on ne sait pas, il tombe, et puis là, regardez ce qui se passe. Acte 9, verset 7, je l'ai mis, ouais. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Et là, regardez, verset 8, Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Et regardez, on le prit par la main, et on le conduisit à Damas. C'est des petits détails, ça, mais c'est très intéressant. Ça veut dire que, quelque part, dès le départ, alors que là encore, il est au béaba de la vie chrétienne, dès le départ, Dieu veut lui apprendre, quelque part, à ne plus tout maîtriser, mais à se laisser conduire. Et nous, on lit ça, mais pour un homme comme Saul de Tarse, se faire prendre par la main comme un enfant et puis se faire amener quelque part, ben, ce n'était pas trop son habitude, ce n'était pas trop sa façon de fonctionner. Voyez, mais dès le départ, il va falloir qu'il apprenne à ne plus dépendre de lui, à faire confiance aux autres et à se laisser amener. Et l'épisode de la corbeille, c'est exactement la même chose. Et j'ai envie de dire, mais c'est ça la marche avec Dieu. À partir du moment où je donne mon cœur au Seigneur, à partir du moment où vraiment je décide de dire « Seigneur, maintenant je veux marcher avec toi », alors à partir de ce moment-là, ça va impliquer que je vais devoir apprendre à ne plus dépendre de moi, mais à dépendre de lui. Je vais devoir apprendre à ne plus dépendre de mes propres mains, mais de sa main à lui. Et ça, c'est tout sauf évident. Parce que dans notre nature, on a notre nature humaine, charnelle, ça dépend de nous, quoi. Si nous, on ne fait pas ce qu'on a à faire, ben, si on ne se prend pas en main, les choses n'avancent pas. Mais dans la vie spirituelle, c'est différent. Désormais, ma vie, elle ne dépend plus de moi. Bien sûr, j'ai ma part. Mais d'abord, ma vie, elle dépend de lui. Et Dieu va m'apprendre, dès le départ, à dépendre de lui. Voyez, imaginez-vous, j'y reviens, l'apôtre Paul dans la corbeille. C'est de vous imaginer un peu. Nous, on lit ça comme ça. Mais déjà, il a fallu qu'il fasse entièrement confiance à ceux qui retenaient la corbeille. Je ne sais pas comment ça s'est présenté avec des cordes, tout ça, je ne sais rien, j'imagine, avec des cordes, vous voyez. Mais il a fallu qu'il fasse confiance à d'autres miens que les siennes. Je ne sais pas, mais on lit ça, nous on lit ça, ça n'a pas dû être simple. Hein. Ça n'a pas dû être simple. Et ces corbeilles, c'est l'image parfois de certaines situations, de certains contextes par lesquels on passe. Vous voyez. C'est pas confortable. Vous croyez qu'il était confortable dans la corbeille? Je crois pas. Suspendu là, je sais pas combien il y avait de mètres en dessous. Qui plus est, je sais pas si vous avez réfléchi, dans le noir, parce qu'il fallait pas qu'on le voie, donc ils l'ont descendu dans le noir, suspendu là. Mais quelque part, cette corbeille, c'est un petit peu l'image de certaines situations par lesquelles on passe parfois, certains contextes dans lesquels on se trouve. C'est pas confortable. C'est pas rassurant, c'est pas très sécurisant, on ne sait pas trop comment ça va se goupiller, on ne sait pas trop ce qui va arriver, comment ça va finir la situation, on ne sait pas trop. Mais on est là quelque part et on sent bien que là, ça ne dépend pas que de nous ou plus de nous, Mais ça dépend d'autre chose. En tout cas, il a dû vivre ça à ce moment-là, voyez. Et quelque part, par cet épisode, Dieu a voulu apprendre à Saul de Tarse à dépendre non plus de lui, mais non seulement des autres, mais surtout du Seigneur. Voyez. Et je crois qu'il y a des moments où dans nos vies, Dieu permet qu'on se retrouve dans certaines corbeilles. C'est une expression, c'est une image, bien sûr. Mais je crois que ce que Paul a vécu là, ce que Saul de Tarse a vécu là, où il s'est retrouvé dans une corbeille, dans une situation pas très rassurante, pas très sécurisante, c'était pas très confortable. Je crois qu'il y a des situations comme ça par lesquelles on passe, c'est exactement la même chose. C'est comme si on était dans la corbeille. C'est pas sécurisant, c'est pas rassurant, on se demande comment ça va finir, on se demande si ça va pas mal finir d'ailleurs des fois, on se pose des questions, on sait pas ce qu'il y a au bout, c'est comme l'apôtre Paul, là, c'était noir, mais des fois il y a des moments où on sait pas trop où on va, on sait pas trop comment ça va finir, voyez. Et je crois qu'il y a des moments où Dieu permet qu'on se retrouve dans certaines corbeilles, et le nom de la corbeille, vous y mettez le nom que vous voulez, hein. On pourrait mettre des noms. Hein. Dieu permet certaines choses. Hein, pas toujours confortable, pas toujours très rassurante, mais au travers de ça, ce que Dieu cherche, c'est à nous apprendre à dépendre de lui, à compter sur lui et plus sur nous, à compter sur ses capacités à lui et plus sur les nôtres, à compter non plus sur nos propres mains, mais sur sa bonne main à lui. Et ça, c'est tout sauf facile. C'est tout sauf évident, voyez. Et peut-être c'est ce qu'on vit en ce moment. Des situations où, quelque part, on ne maîtrise plus grand-chose. Parce que l'apôtre Paul a fait un Saul de Tarse à ce moment-là, il ne maîtrisait rien. Là. Il est là, il dépendait des autres. Hein. S'il se faisait choper, il était mort. Si les autres au-dessus le lâchaient, il était mort. Si la bonne main de Dieu n'était pas là, ben, ça finissait mal. Et il y a des situations comme ça dans lesquelles on peut se retrouver les uns et les autres. On est comme dans la corbeille, on est là, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Ce n'est pas très confortable, franchement, ce n'est pas le Ritz. Hein. On est là, on ne sait pas trop ce qui va arriver, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on ne comprend pas pourquoi on est là, on n'a pas forcément cherché ça. Mais ces situations-là, Dieu les permet pour nous apprendre à grandir dans la foi, pour nous apprendre à lui faire confiance. Pour nous apprendre à nous enraciner, à dépendre de lui. Voyez et quelque part, peut-être, au travers de ça, au travers de ces situations, Seigneur veut nous amener plus loin. En tout cas, j'en suis convaincu. Voyez, Seigneur veut nous amener plus loin. Il cherche à nous amener plus loin. Hein, c'est des expériences qui ne sont peut-être pas très agréables sur le moment, mais au travers de ça, désir du Seigneur, ce n'est pas que tout s'arrête là, c'est qu'on aille plus loin. C'est qu'on aille plus loin. Deuxième chose que je remarque ici, c'est que si Paul n'avait pas accepté l'épisode de la corbeille, en disant, je ne sais pas moi, il aurait pu dire, moi, jamais je monterai là-dedans. Je suis claustro, ou je ne sais pas, vous allez pas me. Moi, je vais monter là-dedans. Non, je ne vais pas monter là-dedans. Hein. Enfin, je ne sais pas, vous voyez, il aurait pu. Imaginez que, quelque part, il refuse de monter dans la corbeille. Ben, ça a été son moyen de salut quand même. Hein. Ben, vous savez ce qui serait passé? Ben, peut-être qu'à ce moment-là, il serait mort. Ah oui, on l'a lu verset 23, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Ils n'étaient pas là pour plaisanter. Hein. Ils n'étaient pas là pour simplement lui dire, écoute, ça serait bien que tu arrêtes. Ils étaient là pour attenter à sa vie, voyez. Ils ne plaisantaient pas. Et je crois que parfois, dans nos vies, les corbeilles par lesquelles le Seigneur nous fait passer, c'est-à-dire ce genre de situation pas évidente, où on ne maîtrise pas grand-chose, où c'est peut-être pas très confortable, mais ce sont des passages nécessaires pour qu'on grandisse. Et si on s'y refuse, pour X raisons, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par le fait de s'y refuser? Ben, peut-être, quelque part, on veut faire à notre manière. Oh, non, moi, je vais reprendre les choses en main, je vais faire à ma manière, je vais faire à ma façon, etc., etc. Et donc, quelque part, on laisse plus faire le Seigneur. Vous voyez? Ben, quelque part, peut-être que où on va se cracher, peut-être même on va mourir spirituellement. Et il y a des moments où Dieu permet ce genre de situation. On est comme dans une corbeille, là. On ne maîtrise plus rien. Ça ne dépend pas de nous. On est là, Seigneur, compte sur toi, je ne comprends pas pourquoi je suis là, je préférerais être dans une autre situation. Je suis convaincu que l'apôtre Paul, à ce moment-là, fait un Saul de Tarse, il aurait aimé être dans une autre situation que celle-là. Peut-être ce soir, on dirait, moi j'aimerais être dans un autre contexte que dans celui dans lequel je suis. Ben, c'est comme Paul dans la corbeille. Mais ce sont des passages que Dieu permet pour nous faire grandir. Vous savez, des fois, je me rends compte, et je le dis pour moi, il y a beaucoup de chants, c'est très facile de les chanter. Hein. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, ah, oui. Hein? Ça, c'est très facile de le chanter. Et plein de chants comme ça. Hein? Y en a un, là, c'est un vieux chant, là. Ah, je n'aspire qu'à m'immoler. Ah, je n'aspire qu'à m'immoler. Ouais, c'est très facile à chanter, ça. Mais bon, jusqu'à quel point, je sais pas quoi. Vous voyez, et on pouvait prendre tout un tas de chants, c'est très facile à chanter. Et des fois, j'ai envie de dire, j'imagine, le Seigneur est là en train dans le ciel en train de sourire et dire, ouais, tu crois? Hein? T'étais sûr? Hein? Ou alors des fois, bon, ok, d'accord. Et puis on se retrouve dans une corbeille, un peu comme. Et puis on est là, si Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Je comprends pas, comment ça se fait? Ça dit, ben, je fais ce que tu as chanté. Alors j'y mets une note d'humour. Mais on est tous pareils, hein, moi le premier. Hein. Il y a des trucs, on les chante des fois, mais je me dis, mais. Vous voyez? Si l'apôtre Paul était pas, avait refusé de passer par là, ben peut-être qu'il serait mort. Et je crois quelque part que c'est important de réaliser qu'il y a des situations là que Dieu permet. On est comme dans la corbeille. Mais quelque part, au-delà de cela, la bonne main de Dieu est là. Et si nous, on ne maîtrise rien. Il y en a un qui maîtrise et il sait ce qu'il fait. Alléluia. Et en réfléchissant un petit peu à ça, je voudrais faire un parallèle, parce que je me dis quelque part c'est la même chose. Avec un homme de l'Ancien Testament, on connaît bien l'histoire, c'est Joseph. On connaît bien l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Hein, quand on y réfléchit, et je reprends mon image, mais il est passé dans quelques corbeilles, lui. Hein. C'est-à-dire tout un tas de trucs, il a dû se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi je passe par là? C'est-à-dire des situations où il maîtrisait plus rien, il n'avait aucune explication, il ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait au bout, ça ne dépendait pas de lui. Vous voyez, il est passé par tout un tas de corbeilles. Et je relisais rapidement son histoire, mais quelque part, à un moment donné, ça ne dépendait plus de ses mains. Par contre, il s'est retrouvé dans tout un tas de mains. Hein. Et pas que des mains bienveillantes. Hein. Alors regardez, d'abord, il s'est retrouvé entre les mains de ses frères. Regardez. Alors bien sûr, vous vous rappelez au début, il y a eu l'épisode quand il a raconté à ses frères, à son père, les songes, etc. Oui, vous vous prosterniez devant moi. Bon, c'est pas la meilleure chose qu'il a faite ce jour-là. On est OK là-dessus. Ouais, OK. Et puis, bon, vous rappelez les frères qui vont être jaloux, etc. Vous rappelez un peu, hein, vous rappelez un petit peu toute cette histoire, on va pas le relire. Il est dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Voilà. Déjà là, il se retrouve entre les mains de ses frères et ces mains-là, elles n'étaient pas bienveillantes. Vous voyez, elles n'étaient pas bienveillantes. Et là, on peut se dire à ce moment-là, essayez de vous imaginer, ils sont où les songes que tu m'as donnés? Ils sont où les promesses que tu m'as faites? C'est où, Seigneur? Vous voyez? Là, il y avait de quoi se dire, mais j'y comprends plus rien. Ensuite, ils se retrouvent entre les mains des marchands madianites. Au passage des marchands, Genèse 37-28, madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et là, je me dis, quand ils l'ont tiré, qu'ils l'ont levé, il a dû se dire, ouf, ça y est, je sors. Ça y est, ils se sont rendus compte que quelque part, ils n'avaient pas été très sympathiques avec moi. Ils vont me demander pardon. Je vais les pardonner. Hein, et puis, ça va aller mieux. Tu parles. Hein, regardez. Et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Vous imaginez un peu le truc? Vous vous retrouvez entre des mains de gens que vous ne connaissez même pas. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'ils vont faire de vous. C'est des marchands d'esclaves. Vous savez, à cette époque-là, les esclaves, que ça vive ou que ça meure, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire, si dans le chemin, il y en a un qui meurt, hein, on te le prenait, on te le jetait dans un coin, et puis c'était terminé. Mais vous imaginez un peu le truc. Et là, il se retrouve entre ces mains-là. Mais il y a de quoi rien y comprendre. Ensuite, il se retrouve entre les mains de Potiphar. Genèse 39. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Vous voyez, il passe de main en main. Vous voyez, mais alors là, c'est le cas de dire, il maîtrise plus rien du tout. Vous voyez, et là, encore une fois, Seigneur, tu es où? Tu fais quoi? Comment ça se fait? C'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, vous voyez, comme dans tout, il passe par plusieurs corbeilles. Et là, l'incompréhension, le noir total, le brouillard. Et puis, il va passer après entre les mains de Madame Potiphar. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas s'y arrêter. Et puis, il va passer aussi par les mains du chef de la prison. Regardez. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Retenez bien là. Il ne l'a pas fait sortir de la prison. Il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Vous voyez, des fois, Dieu, il a des plans, il nous fait passer par des chemins, mais vous voyez, nous, on aurait dit, Seigneur, sors-le de la prison, quoi. Non, non, Dieu le fait rester là. Vous voyez. Donc, on se rend compte, au travers de tout ça, j'ai glané quelques versets là, que quelque part, on sent bien qu'il maîtrisait, mais rien de rien de rien. Vous voyez. Il est passé de main en main, et j'ai envie de dire, il est passé par toutes sortes de corbeilles, où franchement, dans toutes ces étapes-là, ça n'a pas dû être très confortable, hein. Nous, on lit ça comme ça, mais quand il s'est retrouvé dans la citerne avec ses frères jetés, ça n'a pas dû être confortable, ni rassurant. Quand il s'est retrouvé après entre les mains de ses vendeurs, c'était pire, parce qu'il ne les connaissait même pas. Quand il s'est retrouvé chez Potiphar, alors là, il s'est dit, alors là, c'est le pompon, Madame Potiphar, j'en parle même pas. Et là, maintenant, et on a l'impression que chaque fois, ça descend de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Il ne maîtrisait rien du tout. Voyez. Et je me dis, mais plus d'une fois, Joseph, il a dû se dire, mais toutes ces promesses que tu m'as faites, ces songes, tout ce que tu m'as montré, c'est où tout ça? Et qui peut dire que parfois, dans sa marche avec Dieu, jamais il n'a dit au Seigneur, Seigneur, t'es où? Je ne comprends pas. Pourquoi je passe par là? Pourquoi je suis dans telle situation? Pourquoi je traverse ça? J'y vois rien. Ce n'est pas confortable. Je ne suis pas rassuré du tout. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne maîtrise plus rien. Et il n'y a rien de plus déconcertant que quand on ne maîtrise rien. Vous aimez ça, vous rien maîtriser? Moi, j'aime pas ça. Hein. Vous êtes là, vous avez rien sur quoi vous appuyer. Vous ne savez pas, l'un vous dit ça, l'autre il vous dit autre chose, l'autre il vous dit. Finalement, vous ne savez plus où vous en êtes. Quoi. Et je me dis que Joseph, dans ce moment-là, il ne devait plus savoir où il en était. Voyez. Mais la grande leçon de tout ça, et on le sait, c'est qu'au-delà de toutes ces mains par lesquelles il est passé, on sait une chose, c'est qu'il était entre les mains de celui qui veillait sur lui. Mais l'Éternel fut avec lui. On sait que derrière ça, il y avait la bonne main du Seigneur. Et on se rend compte d'une chose, c'est que, quelque part, c'est le plan de Dieu qui s'est accompli. Au-delà de ce qu'il vivait, qu'il ne comprenait pas, qu'il ne maîtrisait pas, c'est le plan de Dieu qui s'est accompli. Et quelque part, cette histoire, elle est là pour nous encourager. Lui, il ne maîtrisait rien, mais Dieu maîtrisait tout. Lui, il ne comprenait rien, mais Dieu savait où il allait. Et Dieu savait jusqu'où il voulait l'amener, voyez. Et plus d'une fois, il a dû se dire, mais cette fois, c'est fini. Cette fois, c'est terminé. Rendez compte, mis en prison, calomnié pour être passé pour un tordu avec Madame Potiphar, mis en prison, là, cette fois, c'était la fin de la fin. Potiphar, c'était pas n'importe qui. Et puis là, Dieu intervient, là. Il maîtrisait rien, mais Dieu maîtrisait tout. Et je crois que, quelque part, c'est important de réaliser pour nous que même si aujourd'hui, on ne maîtrise rien, si on ne comprend pas tout, si on a l'impression d'être comme dans une corbeille, là, on dit Seigneur, je ne comprends rien. Ben c'est important de réaliser qu'on est entre les mains du Seigneur et que lui, il sait ce qu'il fait. Et la vie chrétienne, elle nous fera toujours passer par toutes sortes de corbeilles, de situations comme ça où finalement ça ne dépend plus de nous, on ne maîtrise rien. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On n'a pas toutes les explications. On ne sait pas ce qu'il y a forcément au bout. Mais on sait une chose, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est tout. Et j'ai envie de dire, mais ça, c'est nécessaire. Et même si ce n'est pas évident, même si notre chair n'a pas envie de l'entendre, c'est nécessaire pour notre nature. C'est nécessaire parce que c'est ça qui va nous permettre de nous affermir, de nous faire grandir dans la foi, de nous enraciner. Et quelque part de mûrir spirituellement parlant, et quelque part de pouvoir rentrer toujours plus dans ce que Dieu a prévu pour nous. Si quelque part toutes les choses se passaient toujours comme nous on voudrait, à la limite on n'a pas besoin du Seigneur. Hein. Mais quand la Bible parle de l'émondage, c'est ça, vous voyez, quand Jésus parle d'être émondé, mais c'est ça. Hein, on passe par des corbeilles, voilà, un peu comme Joseph. C'est des épisodes, des situations, des circonstances. On est là. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais au travers de ça, Dieu nous affine. Dieu fait son œuvre. Quelque part, Dieu nous apprend à compter sur lui. Dieu fait grandir notre foi. Vous n'avez pas envie que votre foi grandisse? Moi, je dis, Seigneur, fais grandir ma foi. Quand on fait cette prière, le Seigneur dit, ok, d'accord. Donc, il nous met en situation. Il y a la théorie et puis il y a la pratique. Et la mise en situation, elle n'est jamais évidente. Hein. On n'aime pas ça. Et si vous regardez, on a parlé de Saul de Tars, on a parlé de Joseph, mais finalement, tous les hommes de Dieu sont passés par là. Toutes sortes de situations où, c'est comme dans une corbeille. Alors, vous voyez, c'est une demande, qu'est-ce qu'on fait là, voyez, et pourquoi on est là, et pourquoi on passe par là, voyez. Mais quelque part, c'est un passage par lequel Dieu nous fait passer parce qu'il a des choses à nous apprendre. Il y a des choses qu'il veut faire rentrer. Et quelque part, ça fait partie de son plan pour nos vies. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, même si je ne comprends pas tout, Seigneur, je veux te faire confiance. Et si peut-être ce soir, c'est un peu notre cas, je le dis de temps en temps, je vais encore le redire ce soir, bienvenue au club. La marche avec Dieu, c'est ça. Quand l'apôtre Paul dit nous marchons par la foi et non par la vue, mais c'est ça. Et c'est pas toujours confortable de marcher par la foi. C'est pas toujours confortable. Voyez. Bien sûr, on sait que Dieu est là, mais c'est pas toujours évident. Hein. Quand on est un peu comme suspendu là, comme Paul dans sa corbeille, suspendu à un fil, ça tient à un fil, ça peut se cracher à tout moment, ça peut, vous voyez, ça, peut-être ça a balancé. Il y a eu des moments où il s'est dit hop, vous voyez. Mais on sait une chose, c'est que Dieu est là, et il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Alors, je veux terminer par un dernier verset. C'est une parole de Jésus qu'on connaît bien pour la plupart, dans l'évangile de Jean. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et j'aime cette parole. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Personne ne les ravira de ma main. Et c'est ça le plus important. C'est que bien souvent, nous on ne maîtrise rien, on ne maîtrise pas grand chose. Mais nos vies, elles sont entre ses mains. À la limite, j'allais dire, quand Jésus dit personne ne les ravira de ma main, les seuls qui peuvent faire ça, c'est nous-mêmes. On peut se retirer tout seul de la main du Seigneur. Parce qu'on fait ce qu'on a envie, comme on a envie. Mais ça, c'est autre chose. Mais sinon, mis à part ça, nul ne les ravira de ma main. Pas le diable, hein, il ne peut pas, hein, etc. Mais de réaliser que quelque part, même si parfois, je suis dans une corbeille, voilà. J'ai l'impression de revivre un peu la même expérience, dans une situation où je ne maîtrise pas grand-chose, mais dans la corbeille peut-être, mais entre les mains du Seigneur. Entre les mains du Seigneur. Et quelque part, quand notre vie est entre les mains du Seigneur, elle est entre nos bonnes mains. Et peut-être ce soir, les uns et les autres, on passe par toutes sortes de corbeilles qu'on pourrait nommer de différentes façons, hein. Des situations qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne comprend pas, où il n'y a pas d'explication. Mais une chose est sûre, c'est que quelque part, même si nous, on ne maîtrise plus rien, il y en a un qui maîtrise tout. Et je me dis, Seigneur, je veux m'accrocher à ça. Seigneur, toi, tu es celui qui maîtrise tout. Dans l'histoire de Joseph, Seigneur a tout maîtrisé de début à la fin. Notre avantage, c'est que nous, on connaît la fin de l'histoire. Donc, il n'y a pas de problème. Mettez-vous à la place de Joseph. Voyez, Saul de Tars, quand il est descendu par la muraille, on ne sait pas combien de temps ça a pris. Mais peut-être même il s'est dit, je vais arriver en bas. Dans quel état je vais arriver en bas? Peut-être qu'en bas, hein, ils vont m'attendre. Enfin, voyez, notre vie est entre les mains du Seigneur. Et je voudrais vraiment que ce soir, ça puisse les uns et les autres nous encourager. Même si nous, on ne maîtrise pas grand-chose, lui, il maîtrise. Il maîtrise. Et je crois que Dieu permet ces situations, même si c'est inconfortable, même si on n'aime pas. Et moi, je suis le premier à ne pas aimer ça. Mais dire, Seigneur, je veux avec ta grâce te faire confiance et te faire confiance jusqu'au bout. Parce que tu l'as dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent et nul ne les ravira de ma main. Alors Seigneur, ma vie, nos vies, elles sont dans tes mains, Seigneur. Et Seigneur, là dans ta main, Seigneur, je suis rassuré. Quelque part, même si j'ai des questions, mais ça c'est normal, Seigneur, je sais que quelque part tu ne me lâcheras pas. Alléluia. Dieu ne lâche jamais personne quand on lui fait confiance jusqu'au bout. Dieu ne lâche jamais personne. Alléluia. Je voudrais que ce soir, les uns et les autres, ça puisse vraiment nous encourager parce que la vie, elle n'est pas facile, elle n'est pas toujours simple, hein, même quand on est croyant. Mais de réaliser ces choses-là, dire Seigneur, bon, toi, ça nous dépasse, mais Seigneur, toi, tu sais ce que tu fais, où tu vas. Alors Seigneur, je veux te faire confiance. Alléluia. Seigneur, ce soir.